بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره Donc d'abord avant de commencer inchallah si on a amené l'ordinateur c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire imprimer les documents et donc c'était plus facile c'est pour ça que بسم الله الرحمن الرحيم Donc inchallah avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala comme hier on va essayer de faire un bref résumé et de repasser sur le deuxième sipara donc qui a été récité en partie hier soir et comme hier aujourd'hui également inchallah on va faire cela en trois parties c'est-à-dire d'abord la première partie la partie fiqh qu'on a appelée c'est-à-dire les règlements juridiques les masa'il deuxièmement les péchés qu'Allah tabarak wa ta'ala mentionne et troisièmement la tazkiyah la purification et les qualités qu'on devrait essayer d'obtenir. Et le but de tout ça, comme on a dit, alhamdulillah, c'est que le Coran est pas que le Coran Sharif, Allah Ta'ala dit que c'est une hidayat, c'est une guidée pour nous. Donc, on doit essayer d'amener cela dans notre vie. Lorsqu'on parle de péché, alors moi j'essaye de voir si par exemple on est impliqué dans ce péché, alors on demande pardon à Allah Tabarak wa Ta'ala et on essaye d'arrêter cela. Et si on connaît des gens qui sont pris dans ce péché-là, alors on essaye de faire l'effort pour qu'Inch'Allah il s'arrête. De la même manière, lorsqu'on parle de masa'il, alors lorsque l'occasion se présente, on essaye de pratiquer là-dessus. Et troisièmement, les qualités à obtenir, on essaye donc de faire un travail là-dessus. Donc Inch'Allah, on va commencer par la première partie, la partie fiqh, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala dit en ce sens, dans le deuxième sipara, à un moment, « Innama harrama alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne certaines choses qu'il est permis les choses qui ne sont pas permises de consommer, c'est-à-dire de manger. La traduction du verset en elle-même, c'est quoi? إنما حرم عليكم الميتة. ميتة, la bête qui est morte, c'est-à-dire un animal qui de manière générale et normale, c'est halal. Par exemple, le bœuf, ou alors le chameau, ou alors le cabri. C'est un animal, si on va égorger cet animal, alors il sera permis de consommer. Mais si cette bête, elle est morte d'elle-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas égorgé cette bête. Et dans un autre verset du Coran et Pâques, dans la Sourah Al-Ma'ida, le verset 3, Allah Ta'ala il dit « Hurrimat » عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة c'est-à-dire par exemple la bête qui est morte étouffée والموقوذة la bête qui est morte assommée والمتردية la bête qui est morte d'une chute donc si par exemple un animal un chameau un cabri un bœuf il est mort dans ce type de situation là alors ça sera interdit à la consommation إنما حرم عليكم الميتة le ميتة donc c'est quoi c'est une bête qui a été qui est morte donc sans égorgement. Waddamu le sang, walahmul khinzir la chair donc de porc. Wama uhilla li ghayrillahi bih et tout ce qui a été égorgé pour quelqu'un d'autre qu'Allah tabarak wa ta'ala pour les idoles, pour les divinités, pour les shayatin etc. Donc ça Allah tabarak wa ta'ala dit que c'est interdit à la consommation. Bien sûr, il y a d'autres choses également qu'il n'est pas permis de manger. Mais dans ce cadre-là précis, dans ce ayat, Allah tabaraka wa ta'ala, il mentionne cela. Et comme on a dit, ça c'est quelque chose qui a été plus développé dans la surah Al-Ma'ida, donc le verset 3 qu'on vient de réciter, وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ etc., etc. Maintenant, par rapport à ce verset-là, le Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, il a mentionné plusieurs mas'alas, plusieurs règles juridiques qui nous concernent directement. Pour ce qui est de cette bête morte-là, il pose la question du fromage. Alors pourquoi est-ce qu'il pose la question du fromage? Parce que parmi les ingrédients du fromage, il y a quelque chose qu'on appelle de la présure. Et la présure, c'est ce qu'on appelle une enzyme. C'est quelque chose qui se trouve dans le bœuf, dans l'animal. Et en arabe, on appelle ça infaha ou bien anfaha. Maintenant, quand on mange du fromage, alors vous savez qu'on ne sait pas forcément est-ce que cette enzyme-là, elle est venue d'une bête qui a été égorgée ou ça n'a pas été égorgé. Donc est-ce que c'est halal ou ce n'est pas halal? Donc Al-Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayh, il pose cette question-là et il explique. Il dit que selon Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayh, et je pense le comité halal réunion également suit cet avis, cela est permis. C'est-à-dire qu'on a le droit de manger le fromage qui contient donc de la présure. En revanche, pour ce qu'on appelle les sahibains, c'est-à-dire Imam Abu Yusuf et Imam Muhammad, rahimahullah ta'ala, ils sont d'avis que ce n'est pas permis. Bref, de manière générale, on suit donc cette opinion. Bien sûr, comme Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, il dit à un autre endroit, si quelqu'un par précaution, ihtiyat, Mufti Shafi dit, ihtiyat ou ihtiyat, wallahu alam, celui qui veut se protéger, il préfère éviter, alors il peut éviter, mais on a le droit donc de consommer du fromage à base de présure. Maintenant, pas tous les fromages ils contiennent cet ingrédient-là. Donc, si on veut choisir un autre ingrédient, on a également le droit. Concernant ce mot, le sang, waddamu, Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il parle? Il parle ici de la transfusion sanguine et du don du sang. Il y a Maulana Mohamed Patel, Dame al-Barakatuhum, qui a écrit un article là-dessus. On était passé dessus également. Et ils disent qu'en général, il y a un principe du fiqh qui explique que quoi, le corps humain en lui-même, il est mukarram. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vendre, quelque chose on ne peut pas utiliser, donner, etc. Donc, à l'origine, c'est quelque chose qui ne devrait pas être permis, de faire le don du sang. Mais aujourd'hui, à cause, on va dire, des différentes situations, les catastrophes, etc., qui peuvent apparaître, Mufti Abdul Rahim Rajpuri, rahmatullahi alayhi, dans Fatawa Rahimiyya, le volume 10, à la page 298, lui, il a cité et il a dit que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, le don du sang, à cause de cette nécessité, et puisqu'il y a un danger pour la vie d'un malade, danger donc de mort, alors dans ce cas-là, il y a possibilité donc de faire le don du sang. Ça, c'était pour le fromage et c'était pour le sang, donc pour ce ayat. Maintenant, une autre partie de fiqh dans ce deuxième sipara-là, le verset qu'on connaît, Inch'Allah, on a déjà beaucoup entendu, c'est ce qui concerne le saum, le rosa. Allah Tabaraka Ta'ala dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam » Ô les croyants, le jeûne vous a été prescrit. C'est-à-dire, Allah Ta'ala, il a rendu obligatoire le jeûne. Alors, on sait que le jeûne, c'est de ne pas manger et boire et de ne pas avoir de relation avec son épouse depuis le subh sadiq jusqu'au coucher du soleil. Donc ça, également, Allah Tabaraka Ta'ala, il l'explique. Et vous savez également peut-être, on était passé dessus, alhamdulillah, précédemment, qu'auparavant, le jeûne, c'était quoi la forme du jeûne? Quand quelqu'un, il faisait le iftar, la rupture du jeûne. Maintenant, donc il faisait sa prière, etc. À partir du moment où il allait se coucher, par exemple, il allait se coucher à 22h, ben ça, c'était le début de son jeûne. C'est-à-dire, après ça, il ne pouvait plus manger. À l'époque, c'était comme ça. Dans Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, le tafsir, il y a un long riwayat qui explique les différentes modifications qu'il y a eu par rapport à ça. Mais aujourd'hui, nous, non. Même si, par exemple, on s'est endormi et on s'est réveillé, on a pris le sahri, donc après, on peut continuer à manger jusqu'à environ 5h25, à peu près, ou un peu plus, donc jusqu'au subh sadiq. Donc, on va passer là-dessus. Mais ce qui m'intéresse un peu plus dans le jeûne, c'est que dans ces ayats-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de quoi? Il parle de la fidya. C'est-à-dire, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Et dans la qiraati également, il y a طَعَامُ مَسَاكِينَ en ce sens. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne peut pas jeûner. Et là, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah il nous explique ce cas, c'est-à-dire, quelqu'un pourra donner la fidya. La fidya, c'est une compensation monétaire. En général, c'est à peu près, je pense, 3 euros à peu près. Ça peut varier selon la valeur du blé. Et cela ne s'appliquera que dans deux situations. Premièrement, c'est quelqu'un qui est très âgé, extrêmement âgé, et qui ne peut plus jeûner. Alors dans ce cas-là, cette personne-là, elle va donner la fidya en contrepartie et en compensation de son jeûne. C'est-à-dire, par exemple, s'il y aura 29 ou 30 jeûnes, et si la fidya, c'est à peu près 3 euros, alors pour chaque jeûne, devra donner cette personne-là 3 euros, ce qui fait dans tout le mois, on va arrondir, on va dire 90 euros. Et deuxième cas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie, une telle maladie sur laquelle il n'y a plus d'espoir de guérison. C'est-à-dire, on est sûr que cette personne-là, enfin sûr, bien sûr, Allah Ta'ala, il peut faire, mais on parle de la sunnatullah, pas de qudratullah. En général, les docteurs, etc., ils nous disent que cette personne-là ne pourra pas guérir. Donc, dans ce cas-là également, on pourra donner la fidya. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Peut-être parfois, on peut se dire, ah non, ben, on était malade dans le mois de Ramadan, et on n'attend même pas la suite, c'est-à-dire on n'attend même pas de retrouver la santé, on se dit non, on va payer la fidya. Non, ce n'est pas comme ça. C'est uniquement dans ces deux cas-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est extrêmement âgé, ou alors quelqu'un qui est atteint d'une maladie, et ne retrouvera pas donc la santé, sauf si Allah tabaraka wa ta'ala le veut. Ensuite, concernant cette partie fiqh également, il y a un autre mas'ala en quelque sorte qu'Allah tabarak wa ta'ala mentionne. C'est quoi? C'est la peine de mort, ce qu'on appelle le qisas. Alors, ça c'est un sujet où, même avant d'en parler, etc., comment on va prendre les précautions, etc., etc. Et le but de mentionner ça, justement, c'est un peu de dédramatiser la situation. Parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur l'islam, alors tout de suite, on est pointé, on a peur, on est des terroristes, on est des barbares, etc., etc., etc. Et on va donc faire une petite explication pour vous montrer que déjà, dans les conditions elles-mêmes d'application de cette loi, ce n'est pas dans tous les types de meurtres que ce qisas, la peine de mort, va être appliquée dans l'islam. Mais uniquement dans ce qu'on appelle un qatle amad, c'est-à-dire un meurtre qui a été commis, un homicide volontaire. Et pas seulement avec un homicide volontaire, il faut que la personne ait utilisé une arme qui était faite pour tuer la personne. Si par exemple quelqu'un il a utilisé une arme, un bout de bois par exemple, en général on ne tue pas quelqu'un avec un bout de bois, alors dans ce cas-là, cela ne rentrera pas, donc avec une arme qui transperce le corps. Et de la même manière, quand on parle de la peine de mort, il faut savoir que en droit pénal français, en France également ça existait, et cela a été aboli, je ne sais pas si quelqu'un sait, en quelle année ? C'est aboli en 1981. Ça veut dire jusqu'à 1981, c'était quelque chose qui existait encore, et la France était donc le dernier pays de la communauté européenne qui a été à abolir. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de pays encore dans lesquels qui appliquent également cette loi. Il y a un petit graphique ici, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Et vous voyez tous les pays dans lesquels c'est en rouge un peu, en rouge rose. Alors tous ces pays-là, la peine de mort est encore appliquée, notamment aux États-Unis. Et dernièrement, le 29 juillet 2011, c'est-à-dire il y a quelques jours de cela, il y a quelqu'un, Robert Jackson, il avait 38 ans et il a été condamné à mort. Pourquoi ? Parce qu'il a, pour le meurtre à la hache d'une femme en 1992. Donc ça c'est quelque chose qui existe encore dans d'autres pays. Et tout ça c'est pour montrer quoi ? Mais là personne n'en parle. Mais dès qu'il s'agit de l'islam, dès qu'il s'agit des musulmans, alors tout de suite, nous sommes des grands violents, nous sommes des grands barbares, etc., etc., etc. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a dit. Ça, c'est dans un cas bien précis. Et encore, si les héritiers, c'est-à-dire les enfants, par exemple, de la personne qui a été assassinée, s'ils veulent pardonner à cette personne, ils peuvent pardonner également. Et en contrepartie, ils vont donc leur donner une certaine somme d'argent, soit 100 chameaux, 1000 dinars ou bien 10 000 dirhams. S'ils veulent pardonner, ils peuvent totalement pardonner, il n'y aura pas, donc la personne qui a été tuée, alors elle pourra être libérée. Et aujourd'hui, en France également, pour un homicide volontaire, selon l'article 221.1 du code pénal, du droit pénal français, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Donc ça c'est pour ce qui est en France. Donc tout ça pour dire quoi ? Quand Allah tabarak wa ta'ala il nous dit ça, pourquoi il y a cette peine ? Encore, il faut que ça soit prouvé, ce ne sont pas des choses al-hudud ou tandari ou bishubuhat. Dès qu'il y a un petit doute, on va dire, sur, pour bien déterminer est-ce que c'est cette personne-là qui a été donc l'accusé, l'assassin, etc., etc. Alors tout de suite, on ne va pas avoir recours à cela, donc c'est quelque chose de très précis. Et deuxièmement, Allah tabarak wa ta'ala il le dit clairement, ça c'est une peine, on va dire, surtout dissuasive. C'est comme pour le zina. Allah Ta'ala dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Lorsque vous allez appliquer cela, alors, Inch'Allah, dans cette peine, il y a la vie pour vous. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, malheureusement, on n'a pas emmené le tafsir, dans le premier volume, dans l'explication de ce verset, il a écrit un très beau ibarat, une très belle parole, dans lequel il explique bien ça. Il dit, dissuasif dans quel sens ? Lorsque vous allez mettre et appliquer cette peine, alors les gens ils vont se restreindre. Les gens ils vont se dire, ils ne seront pas prêts à perdre leur vie, même pour prendre la vie de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre également. Et puis surtout, à travers ces quelques informations qu'on a données, c'est-à-dire dans d'autres pays également, c'est appliqué. Dans l'islam, quelqu'un, il ne peut pas se faire justice soi-même. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il a tué un membre de la famille de quelqu'un, et il va dire, non, mais moi je vais appliquer le qisas. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Mufti Shafi Sahib, rahmatullah alayhi, le dit. Il dit pourquoi ? Parce que justement, c'est quelque chose qui est très délicat, subtil, et les règles d'application sont très précises. Et de la même manière, à cause de la colère, quelqu'un, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va être donc tenté de faire des choses qui ne sont pas permises. Et vous savez également, malheureusement, cet incident qui est apparu en Norvège après cela, après ce que cette personne a commis, on a entendu quelques témoignages également des gens qui réclamaient la peine de mort. Ils disent, ben non, avec un tel acte barbare, alors pourquoi est-ce que ce n'est pas ça? Bref, dans la sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et c'est notre foi, c'est notre iman, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit que quelque chose doit être fait, qu'il y a la vie pour nous, pour notre sécurité, pour notre tranquillité, alors notre devoir c'est de croire en ça, Allah nous donne la compréhension. Troisième, on va dire un peu, Mas'ala dans ce deuxième sipara un peu qu'il y a, on essaye de faire donc pas forcément dans l'ordre. C'est quoi? C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle de la wasiyya. La wasiyya c'est quoi? C'est le testament. Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-mawtu in taraka khayra al-wasiyyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf. Le testament, alors le testament brièvement c'est quelque chose qui prendra place après la mort donc du défunt, et c'est quelque chose qui ne peut être fait qu'à hauteur de un tiers des biens. Et là, les savants, ils nous disent que si quelqu'un, il a des enfants, et les enfants ne sont pas dans une très bonne situation financière, alors plutôt que de faire des testaments, il vaut mieux laisser donc cet argent et ces biens-là pour que ses enfants puissent profiter. Maintenant, on passe à notre deuxième partie, celle qui concerne quoi? Les péchés. Et les péchés, donc il y en a plusieurs, on ne va pas les mentionner tous, mais dans les ayats donc, de ce deuxième sipara, en outre, on trouve quoi? On trouve celui de l'alcool. Et un des versets qu'Allah tabaraka wa ta'ala il mentionne, il dit ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. L'alcool et les jeux de hasard. Alors, l'interdiction de l'alcool, ça c'est quelque chose qui a été progressif. C'est-à-dire, Allah ta'ala il a révélé ce verset, après un autre verset, etc., etc. Pour finalement arriver à Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Et ce qu'ils nous disent à travers les petites recherches qu'on a fait, que dans la Bible également, dans le chapitre qu'on appelle les Proverbes, le paragraphe 20 et verset 1, la Bible, qu'est-ce qu'ils nous disent? Raillerie dans le vin, insolence dans la boisson, qui s'y égare n'est pas sage. Et dans un autre verset, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Éphésiens, paragraphe 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Donc on retrouve également ces paroles dans la Bible. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Que, bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans différents ahadiths et mubaraka, nous a prévenu. Nous a prévenu que l'alcool en lui-même, c'est quoi? C'est la mère de tous les vices. Ça s'est mentionné dans Ibn Majah, Sharif, entre autres. Et dans le Coran Sharif également, de manière claire, Allah tabaraka wa ta'ala, il a interdit ça. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est que, on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a interdit, mais à travers cette parole du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, combien de mauvaises choses peuvent encore découler de cela. Par exemple, on nous dit que ça, ce sont des chiffres qui sont valables pour l'Amérique. En 1996, il y a eu en moyenne 2713 viols par jour. En 1996, 2713 viols par jour. Et il nous dit, les statistiques révèlent que la majorité de ces gens-là, ces violeurs, étaient ivres au moment où ils ont commis leur crime, tout comme la majorité de ceux qui ont commis des actes d'attentat à la pudeur. Donc, quand le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça, ça prouve ça. Et de la même manière, il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la consommation d'alcool. Ils en ont mentionné 18 ici, on ne va pas tous les mentionner. Donc, Inch'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala, fasse que Inch'Allah, on essaye de s'abstenir de cela. Et enfin, en conclusion, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que l'alcoolisme n'est pas une maladie, c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Shaytan. Et c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit. Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansab wal-azlamu rijsum min 'amali Shaytan. C'est-à-dire, Satan, Shaytan, il veut faire qu'on se détourne d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'on se détourne du dîn d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un autre péché également qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné juste après, yas'alunaka 'anil khamri wal-maisir. C'est quoi? C'est les jeux de hasard. Et ça également, malheureusement, on constate un manque d'attention et une grande négligence par rapport à cela. Je ne sais pas pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala il nous donne la compréhension, Inch'Allah. Et à travers cela, Maulana Mohammed Patel, toujours dans un de ses articles, il a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il y a unanimité entre les savants musulmans pour considérer l'ensemble des formes de jeux de hasard avec mise qui existent actuellement ou qui seront inventées à l'avenir suivant ce même principe comme étant strictement interdit. Alors pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que il y a une dépendance, c'est comme une drogue. Nous-mêmes, on va être drogués par rapport à cela, parce qu'on va se faire du mal, on va se faire du mal à notre famille, on va se faire du mal moralement, et bien sûr, on va désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour reprendre un peu quelques chiffres, en 2004, pour voir un peu l'étendue de cela, les dépenses en moyenne par ménage étaient de 134 millions d'euros en 2004. Pourquoi? Pour les jeux de hasard. Donc ça prouve bien l'ampleur de cela. Et Mawlana Muhammad, il explique également dans la suite de son article qu'en faisant, en ayant recours à ce principe-là, l'avarice se crée en l'être humain, et c'est pour ça qu'on fait moins de sadaqa. Donc nos bonnes actions également, elles diminuent, et finalement on s'éloigne de plus en plus d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc Allah ta'ala, il fasse que nous tous, inshallah, avec son aide, on arrive à s'abstenir de cela. Ensuite, concernant les péchés, on va passer dans un autre domaine, c'est celui de la pensée. Et ça, forcément, cela ne vient pas à l'esprit immédiatement. La pensée, pourquoi? Parce que des fois, on peut avoir certaines opinions, certaines manières de voir les choses qui ne sont pas conformes à l'islam. Et dans ce deuxième sipara, justement, à deux endroits, Allah tabarak wa ta'ala, en tout cas, nous, on l'a classé un peu comme ça, il mentionne deux récits bien précis. Le premier, c'était quoi? C'était qu'à l'époque de la Jahiliya, aujourd'hui, c'est deux monts, Safa et Marwa, les gens de l'ignorance, ils faisaient également le sa'i, faisaient ce parcours-là, ils y allaient. Et à l'époque, à Safa et Marwa, il y avait deux idoles. Et dans Ruhul Ma'ani, si je me trompe, on était passé dessus, alhamdulillah, certains disent, certains récits, Allah Ta'ala sait combien c'est authentique, que ce sont deux personnes, un homme et une femme, et même donné les noms, etc., qui avaient commis l'adultère, et Allah Ta'ala les a transformés comme ça, donc Wallahu A'lam, Allah est mieux. Mais tout ça pour dire quoi? Que ces gens, ils faisaient donc ce parcours entre Safa et Marwa, avant l'arrivée de l'islam. Maintenant, quand l'islam est arrivé, et qu'il a fallu donc faire ce rituel, le hajj, etc., les musulmans se sont dit, puisqu'à l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire avant l'islam, les gens ils faisaient ça, donc nous on ne va pas faire ça parce que c'est une mauvaise action. On ne va pas faire ça parce que les mécréants, les gens qui ne croyaient pas, les polythéistes, ils faisaient ça, donc on ne va pas les imiter. Ils ont pensé faire bien en ne faisant pas ça. Et Allah tabarak wa ta'ala, pour rectifier le tir, il a révélé ce verset: Inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah, faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihi. Là, ils pensaient que c'était pas bon de faire ça. Allah Ta'ala a dit non, vous pouvez faire ça. Et c'est même parmi les symboles d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et vous allez avoir des récompenses pour ça. Et un autre exemple, c'est l'exemple opposé. Ce sont des gens qui pensaient faire une bonne action. Faire une bonne action, alors qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a dit non, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est à travers quel verset? وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. Alors, qu'est-ce qui se passait lorsqu'il y avait le hajj, lorsqu'il y avait le pèlerinage, et les gens de Mecca, lorsqu'ils voulaient retourner chez eux, dans leur maison, pour eux, hein, dans leur esprit, on parle donc de cette pensée erronée-là, ils pensaient que de rentrer dans leur maison par le devant, par la porte, c'était un péché. Et au contraire, d'entrer par derrière, ça c'était un acte de récompense. Ça, c'était un acte de récompense. Donc, ça, c'était dans leur esprit. Et Allah Ta'ala, il a rectifié également cette pensée. Il a dit: وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. Il n'y a pas de thawab particulier à entrer dans les maisons par désir. Mais, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. Si vraiment vous voulez avoir des récompenses et des bonnes actions, alors c'est de craindre Allah Tabarak wa Ta'ala. Et là, nous aussi, malheureusement, Allah, il me protège moi-même, il nous protège tous. Parfois, on tombe dans des subtilités, dans des pièges de nafs et de shaitan. Il y a des choses auxquelles on est très attaché. Peut-être on pense que c'est bon, alors que ce n'est pas bon. Ou alors d'autres choses, on pense que ce n'est pas bon, alors qu'en réalité c'est bon. Et pour cela, Allah, il nous donne tawfiq de nous rapprocher des personnes qui, alhamdoulilah, ils ont cette compréhension et la science du dîn et l'expérience également, la compréhension, pour avoir une meilleure compréhension de cela. Enfin, on va terminer, inshallah, sur notre dernière partie, ce qu'on appelle donc la purification, les qualités à obtenir. Et une des grandes qualités, bien sûr, qui est mentionnée, c'est quoi? C'est celle de l'humilité. Alors l'humilité à travers quel ayat? Ça c'est dans Ma'arif al-Qur'an. C'est dans le verset فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ ou plutôt فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Allah Ta'ala, il nous dit que lorsque vous avez terminé de Arafat, alors revenez et vous allez donc repartir. Et Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali, il dit que la cause de la révélation, le Shan et Nuzul, à la page 433 dans le premier volume, il dit qu'à l'époque de la Jahiliya, les Quraysh, ils avaient la responsabilité de la Kaaba. Alors, lorsqu'il fallait aller donc à Arafat, qui se trouve, on va dire, en dehors des limites du haram, de ce qu'on appelle les haram, il fallait aller jusqu'à Arafat. Donc eux, ils se disaient, nous sommes les gardiens de la Kaaba. Donc nous n'allons pas aller à Arafat. Nous allons nous arrêter à Muzdalifa. Et vous allez aller à Arafat, et ensuite tout le monde va revenir avec. Et Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils voulaient montrer leur statut. Ils voulaient montrer que nous, nous sommes une famille noble. Nous, nous sommes des gens spéciaux. Et nous, nous ne sommes pas comme vous. Donc nous n'allons pas nous mélanger avec vous. On est différents de vous. Et ça, Mufti Shafi Zahim Rahmatullah Ali dit, c'est en réalité à cause de leur fierté et de leur orgueil. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire ça. Donc ils s'arrêtaient jusqu'à là. Et Allah Tabarak wa Ta'ala a dit non. Allez, mélangez-vous avec les gens. Et le message du Hajj également, c'est ça. Ce symbole de l'égalité totale entre tous les musulmans. On est habillé pareil, on fait les mêmes rites au même moment, etc. Devant Allah Tabarak wa Ta'ala, si ce n'est à cause de la taqwa, si ce n'est à cause de la piété, inna akramakum inda Allahi atqakum, alors tout le monde, nous sommes égaux, quelle que soit la couleur, quelle que soit la différence d'ethnie, de langage, d'intelligence, etc. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum, wa lakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah, il regarde nos cœurs et il nous regarde donc nos actions. Donc ça, c'est une première leçon. Deuxième chose qui est importante, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il mentionne à travers différents versets du Coran Sharif dans ce deuxième sipara, c'est quoi? C'est la pensée d'Allah. C'est le dhikr d'Allah Tabarak wa Ta'ala. De manière claire, à travers un verset, Allah dit « Fadhkuruni adhkurkum »« Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. » Il y a plusieurs tafsirs qui sont donnés. « Obéissez à Allah, Allah vous récompensera par exemple. » Mais également de manière un peu plus, on va dire, avec une indication. Et ça, les Mufassirin alayhim wa rahma, subhanallah, comment ils sont allés puiser dans le Coran. Par exemple, lorsqu'Allah, tabarak wa ta'ala, il parle des ahkam, du talaq, du divorce. « La junaha alaykum » etc. Allah Ta'ala parle des règles du divorce. Et puis tout d'un coup, au milieu, Allah Ta'ala dit Hafidhu ala salawat wa salat al-wusta. Il parle de la salat. Alors, quel lien il y a entre le divorce et la salat? Les Mufassirin alayhim wa rahma, ils nous disent que même dans ce genre de situation, n'oubliez pas une chose. Il faut toujours que votre tawajjuh, votre attention soit dirigée vers Allah Tabarak wa Ta'ala. Et le jeûne, à travers le jeûne de la langue, des yeux, de l'esprit, du cœur, des oreilles, ça doit nous amener jusqu'à ça. Le plus haut degré de la taqwa, le darja de ihsan, que quoi, notre cœur, il n'y a rien d'autre à part Allah tabarak wa ta'ala. De la même manière, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala, il parle du qibla, au début donc de ce sipara, c'est yaqulu sufaha wa minan nasi ma wallahum, à un moment Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et là, Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayh, il nous dit quelque chose d'intéressant à travers ce verset-là, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Qu'est-ce qu'il dit? مَذْهَبِ مَسَائِلْمِ فُزُولِ بَحْسُنْ سَيْجْتِنَابْ كِي هِدَايَتْ. Ça veut dire quoi? Que parfois vous avez des divergences dans les règles juridiques. Mais de s'attarder de manière futile là-dedans, alors Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, vaut mieux éviter ça. On va lire juste le ibarat pour être plus clair. Il dit, jumlaka hasil yehe, c'est-à-dire fastabiqul khayrat, ke jabye ma'aloum he, ke isba hasse un logon ka koi faida nahi ponchega. Quand vous savez qu'en discutant avec ces gens-là, cela ne va rien apporter. Topir isfuzul bahsko tchorkar, apne aslika me lag jana. Alors délaissez cette discussion-là et concentrez-vous sur ce qui est plus important, sur le but de votre vie. Ça veut dire accourez et faites le maximum d'efforts. Pourquoi? Pour obtenir la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, Mufti Shafi Sahib rahmatullah a dit, regardez juste après ça, fastabiqul khayrat aynama takunu yati bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah nous rappelle que tôt ou tard on va revenir vers Allah. Tôt ou tard on va devoir quitter cette terre, on va devoir se présenter devant Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour ça que tout ce qui est un peu, on va dire, qui nous fait perdre un peu notre temps dans cette quête d'Allah tabarak wa ta'ala, on doit essayer de s'abstenir de cela. Allah tabarak wa ta'ala nous permette inshallah à travers ces quelques paroles d'amener inshallah le maximum de qualité dans notre vie, de penser à Allah tabarak wa ta'ala à travers les différents masail qui ont pu être mentionnés. Si on est confronté à cela, alors d'amener cela dans notre vie et les péchés également qui ont été mentionnés, Allah nous permette de demander pardon, de demander tawbah et de faire que toute la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne là-dessus. Allah nous pardonne, nous donne tawfiq. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Rabbana.